Bonsoir. La tribune de la presse de ce vendredi 18 janvier 2013 vous propose deux thèmes. Nous commencerons par la clôture le 15 janvier dernier de la session extraordinaire au Parlement sur fond de divergence. Les deux chambres ont adopté en des termes divergents la loi sur la CENI et le budget 2013. Ensuite, nous aborderons la poursuite à Kampala du dialogue entre le gouvernement et le M23. La délégation du gouvernement congolais qualifie de vastes blagues les revendications du M23 exprimées lors de la plénière de mercredi dernier. Autour de la table, je reçois trois confrères journalistes pour commenter cette actualité. Joël Kadidanga, éditeur de Impact News, un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. Joël Kadidanga, bonsoir.
Bonsoir Alain, bonsoir auditeur de Radio Kapi.
Médard Mbuyal Mangala, journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC. Médard Mbuyal Mangala, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Alain Tchouma, rédacteur en chef de la Radio Kivuane, émettant depuis Goma au Nord Kivu. Alain Tchouma, bonsoir.
Bonsoir Alain, bonsoir à tous les auditeurs qui nous captent à partir de Goma.
Samuel Kachak est à la réalisation et Jean-Noël Mokondo à la mise en onde. Bienvenue à tous dans votre émission. Clôture le 15 janvier dernier de la session extraordinaire au Parlement sur fond de divergence et poursuite à Kampala du dialogue entre le gouvernement et le M23. Comment la presse kinoise a abordé ces sujets? Réponse dans cette revue de presse que nous présente Samuel Kachak.
Bonsoir. Le vote par l'Assemblée nationale de la loi sur la restructuration de la CENI et du budget 2013 se retrouve à la une des journaux parus cette semaine à Kinshasa. Forum des As rapporte que l'Assemblée nationale a voté les deux projets de loi sur la CENI et les finances de l'exercice 2013, renvoyés par le chef de l'État pour une deuxième lecture. À en croire le quotidien, le Sénat a tenu à doter cet organe de 26 membres en raison d'un membre par future province, alors que l'Assemblée nationale en avait proposé 13. Les députés ont donc recouru à l'article 135 de la Constitution qui leur permet de décider en dernier lieu en cas de désaccord avec les sénateurs. Donc l'assemblée plénière de la CENI comptera désormais 13 membres, dont 6 viendront de la majorité, 4 de l'opposition et 3 de la société civile. Pour la tempête des tropiques, par ce vote, l'Assemblée nationale vient d'imposer son modèle pour la nouvelle CENI. Toujours au sujet de ces désaccords, le potentiel révèle que deux points majeurs ont divisé les deux chambres du Parlement autour du budget 2013. Il s'agit de la coupe opérée sur les crédits des fonctionnements du Sénat et la réaffectation des crédits dégagés à la suite de ces coupes. Le journal indique que le Sénat s'est montré intransigeant quant à concéder toute coupe sur son budget de fonctionnement et s'est réservé le droit de saisir pour arbitrage le président de la République en sa qualité de garant du fonctionnement régulier des institutions de la République. Concernant les pourparlers de Kampala, la délégation du gouvernement de la République démocratique du Congo devrait, comme elle l'a demandé au médiateur ougandais la veille, répondre jeudi 17 janvier dernier aux griefs exprimés par le M23 portant sur l'accord du 23 mars 2009, les questions sécuritaires, politiques, économiques et sociales, rapporte le potentiel online citant RFI. L'ancien ministre de la Justice du Nord Kivu, François Ruchogoza, secrétaire exécutif du M23, a exposé mercredi les différentes réclamations de son mouvement. Il a lu un long texte, une sorte de déclaration politique générale, où le M23 explique sa vision des élections de novembre 2011, critique l'organisation de l'armée, de la police et des services de sécurité. En réaction, la délégation du gouvernement congolais qualifie de vastes blagues les revendications du M23 exprimées lors de la plénière du mercredi dernier, souligne radio-okapi.net.
Merci Samuel Kachak, ce sont là les principaux sujets de notre débat ce soir. Médard Mbuyal Mangala, je rappelle que vous êtes journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC. Plus près de nous, il y a la commémoration des deux héros nationaux, Mzé Laurent Désiré Kabila, le 16 janvier 2013, et Patrice Emery Lumumba, le 17 janvier. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces commémorations?
Bon, ce que j'ai retenu de ces deux manifestations, je constate que de manière générale, pour tout un pays qui se veut émergent, on devrait arriver à trouver un compromis. C'est vrai que la question gêne beaucoup de gens. On devrait arriver à trouver un compromis qui permettrait qu'entre le 16 et le 17, qu'on choisisse un jour. D'autant plus que déjà le 4 janvier, nous sommes en train de célébrer les martyrs. Alors, la société congolaise, la société politique disais-je, devrait arriver à trouver un compromis qui ferait qu'on puisse élargir un certain nombre de considérations en privilégiant le travail. Donc, lorsqu'on privilégie le travail, on devrait peut-être arriver à célébrer un seul jour pour les héros nationaux et puis un seul jour pour, à la limite, pour célébrer les martyrs, où on devrait fondre les héros nationaux, les mettre dans son même pied d'égalité que les martyrs de l'indépendance, et on va privilégier la dimension du travail. Deuxième élément de ce que j'ai retenu, il faut créer la conscience historique auprès des Congolais. Parce que les gens qui n'ont pas la mémoire collective ne sauront pas comprendre ce qui est en train de leur arriver aujourd'hui. Ce que Lumumba a eu à dénoncer il y a plus de 50 ans, nous continuons à le vivre à travers les manifestations du M23 et tous les autres cris que nous entendons à gauche et à droite. Et donc, nous ne sommes pas sortis de la lornière. Il faut toujours créer la conscience collective, la conscience historique, pour que le Congolais n'oublie pas le devant de la scène, n'oublie pas les enjeux de la vie et de la survie de la République démocratique du Congo.
Joël Kadedanga, vous êtes éditeur de Impact News, un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. Comment vous avez vécu ces manifestations, tout en tenant compte des observations de Médard Mbuyal Mangala?
Oui, au-delà du caractère festif que ces manifestations ont pris depuis un certain temps, il n'y a même pas un caractère, ça devait prendre un caractère de réflexion pour réfléchir sur ce qui a poussé que Moussa Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba soient tués. Il faudrait que, à l'instar de la justice belge qui a rouvert l'enquête pour découvrir les vrais assassins de Patrice Emery Lumumba, qu'aujourd'hui aussi qu'on rouvre l'enquête comme l'avait promis le juge qui avait condamné ceux qui sont en prison aujourd'hui, qu'on rouvre les enquêtes pour qu'on connaisse réellement la vérité sur les vrais assassins congolais. Parce qu'on peut dire que les Blancs ont commandité, l'Ouganda, le Rwanda ont commandité, mais qui est le Congolais qui a tué Lumumba, le Congolais qui a tué Kabila, qu'on le sache, il ne faudrait pas que ça garde juste le caractère festif pour permettre au trésor public de dégager des fonds pour des choses pour lesquelles on garde un mystère.
Alain Tchouma, vous êtes rédacteur en chef de la radio Kivuane, émettant depuis Goma au nord Kivu. Comment, à Goma, vous avez vécu ces manifestations?
En fait, l'histoire de la RDC avec ces deux héros nationaux a plus marqué aussi encore une fois la population de Goma. Parce que vous savez bien que de temps en temps, quand on arrive à célébrer ou bien commémorer le souvenir de nos deux héros qui sont morts, la population de la ville de Goma et du Nord Kivu a toujours tendance à revoir un peu l'histoire de la RDC, que les différentes actions qui ont été faites par les deux héros. Prenons par exemple d'abord l'idée de Lumumba. Lumumba qui est mort pour la cause de la nation, Lumumba qui voulait défendre la République, Lumumba qui voulait montrer au peuple congolais qu'un jour qu'il arrive plutôt à écrire sa propre histoire. Et aujourd'hui, nous avons d'abord fait un micro-baladeur ici à Goma, où autant que nous demandions aux gens ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils souviennent, ils se rappellent plutôt de ces deux héros. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui a pleuré, qui a toujours montré les bienfaits de ce qu'a été Lumumba, mais malheureusement il n'a pas eu quelqu'un qui pouvait peut-être remplacer ou bien continuer l'idéologie. De plus aussi pour Laurent Désiré Kabila, on a marqué un peu l'histoire avec tout ce qu'il avait comme projet. Il est mort avec cette ambition de rendre encore la RDC une puissance au niveau de l'Afrique centrale, et du temps quand on voit ce qui se passe actuellement avec l'humiliation que nous avons de part et d'autre de nos voisins, avec ce que nous sommes en train de vivre comme aux guerres aujourd'hui, et la population a toujours tendance aussi à remarquer que l'histoire était toujours petite. Mais ce qui est important, c'est que les gens continuent toujours à voir, c'est de comprendre que la RDC, Lumumba, lui qui a dit qu'un jour le peuple congolais qui fait sa propre histoire, nous croyons peut-être que ça peut arriver. Laurent Désiré Kabila, qui lui-même a dit qu'un jour rêvera que la guerre que subit la RDC rentrera de là où elle est venue, et le peuple congolais, la population de Goma, reste aussi optimiste quant à ces deux promesses, et nous croyons peut-être que la RDC retrouvera encore une fois sa paix.
Merci Alain Tchouma. Juste avant d'abord aborder notre premier thème très brièvement. Demain, Médard Mbuyal Mangala, c'est déjà la Coupe d'Afrique et nos léopards en Afrique du Sud. On entend dire Claude Leroy a démissionné, n'a pas démissionné. Il y aurait la grogne au sein de l'équipe, très brièvement.
Non, c'est... Bon, ça s'explique, il faut connaître le contexte congolais parce que dites-vous que le gouvernement de la République a lancé l'opération bancarisation pour l'ensemble de l'administration publique. La bancarisation vient aussi de toucher les athlètes congolais. Or, vous savez qu'à travers les mécanismes des émissaires ou de tous les intermédiaires, ils gagnent au travers l'argent qui passe par la main de la FECOFA. Depuis l'idée de la bancarisation, il y a agitation au sein de la FECOFA et tous les intermédiaires ont vu le MIFTEC leur échapper. C'est ça qui explique tous les bruits et toutes les rumeurs qui circulent en ville.
Joël Kadedanga, le retour de Dr Mukwege, qu'est-ce que ça vous inspire, très brièvement?
Ça nous inspire qu'il est déterminé pour son travail. Il aime son travail et que Dieu l'accompagne. Voilà le souhait que je puis adresser à son retour.
Nous abordons notre premier thème de ce soir. Vous le savez, le Sénat a clôturé sa session extraordinaire le lundi 14 janvier, tandis que du côté de l'Assemblée nationale, cela s'est passé le mardi 15 janvier dernier. Il faut cependant noter que deux textes de loi divisent les deux chambres du Parlement. Il s'agit de la loi des finances exercice 2013 en seconde délibération et la loi organique portant organisation et fonctionnement de la nouvelle CENI, Commission électorale nationale indépendante. Au cours des travaux de la commission mixte paritaire des deux chambres, les divergences sont restées intactes. Jeff Ngoy.
Pour le budget 2013, le rapport ECOFIN du Sénat renseigne que la plus grande divergence réside dans la réaffectation des recettes additionnelles dégagées par les deux chambres. Au lieu de soustraire de son budget 5 milliards de francs congolais, l'Assemblée nationale s'ajoute 2,4 milliards à son budget. Par contre, elle ampute le budget du Sénat de 700 millions de francs. Concernant la restructuration de la CENI, là encore, les députés veulent politiser cette commission. La divergence majeure demeure la composition de la CENI. Pour les députés, ces animateurs doivent être nommés à majorité par leur formation politique. Ils adoptent un projet de loi qui définit préalablement les fonctions de chaque membre. En revanche, les sénateurs proposent que les futurs animateurs de cette institution proviennent majoritairement de la société civile et soient désignés par leurs pairs réunis en assemblée plénière. Ils souhaitent que celle-ci adopte son propre règlement intérieur qui détermine les fonctions de chaque membre de la commission. Le souci étant de rendre cette institution plus indépendante et neutre des formations politiques. Puisque les divergences persistent, c'est le vote des députés qui l'emporte sur celui du Sénat, conformément à l'article 135 de la Constitution.
Merci Jeff Ngoy. Médard Mbuyal Mangala, journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC, clôture de la session extraordinaire sur fond des divergences entre le Sénat et l'Assemblée Nationale quant au budget et à la loi sur la CENI. Comment vous avez analysé ce fait?
Ben moi je suis plutôt inquiet par la posture que prennent nos institutions de la République. Et cette posture, elle est à la fois ambiguë et dangereuse. Ambigu, je veux dire, lorsque on lance un message, une stratégie pour la cohésion nationale, mais on pose des actions qui sont contraires à cette même mobilisation, je me dis qu'il y a un problème. Et justement, jusqu'au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, on est incapable de faire la démonstration ou de cette recherche de la cohésion nationale à travers une analyse assez serrée, une analyse assez cohérente pour qu'au sortir du vote du budget, que chacun trouve la satisfaction. Et donc, on se retrouve devant un jeu de pique-poker entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et l'Assemblée nationale, sachant au départ qu'elle finira par se donner raison, mais ça touche à l'image des institutions. Donc, il ne suffit pas de faire voter le budget tel qu'on l'a fait et qu'on l'affecte d'une manière cabalistique, comme dirait le professeur Malembe. Mais je dis, il y a un problème. L'Assemblée nationale et le Sénat devront travailler beaucoup pour améliorer leur image vis-à-vis de l'opinion publique nationale que nous représentons.
D'après certains sénateurs, l'Assemblée brandirait l'article 135 comme une arme de destruction massive chaque fois qu'il y a commission. C'est là, comme vous le dites, devrait évidemment inquiéter Joël Kadedanga. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Bon, je crois le problème à ce niveau, c'est justement lorsque je l'ai dit le vendredi passé sur votre plateau ici, c'est lorsque les institutions de la République ne savent pas suivre
le message lancé par le chef de l'État, celui de la cohésion nationale, et lorsqu'ils privilégient à leur niveau leurs propres intérêts. Et surtout, cette tendance de politisation de tout qui caractérise l'Assemblée nationale depuis un certain temps, où on ne veut pas se laisser, n'est-ce pas, exprimer les opinions de la population qu'elle est censée représenter au sein de cette chambre basse du Parlement. Vous allez vous rendre compte que le chef de l'État a renvoyé le budget d'abord, justement parce que le budget pour le fonctionnement des institutions était tellement colossal par rapport à celui de la question de l'heure. La question de l'heure, c'est celle
la défense nationale.
De la défense nationale que le chef de l'État a établi comme priorité des priorités de cette année. Mais vous allez vous rendre compte que les institutions se sont accaparées la part du lion au détriment de militaires, des policiers qui sont au front. Et lorsqu'on leur pose la question, cela ne leur dit rien. Et plus grave, l'Assemblée nationale, sachant, c'est prévalent de l'article dont vous venez de parler, a amputé même dans le fonctionnement du Sénat quelque chose de 1,3 milliard de dollars, pendant qu'au lieu d'amputer dans son propre budget de fonctionnement, elle va profiter de cette occasion pour se faire encore ajouter 2,4 milliards de francs congolais. En effet, et pour quelles raisons, diplomatie parlementaire, en tout cas de l'argent difficilement auditable, si vous pouvez me passer le mot, difficilement contrôlable. Donc, c'est vous dire qu'il y a un hiatus entre la majorité au Parlement et le chef de l'État, qui cette année a établi priorité des priorités, la défense nationale, et là, vous voyez qu'il s'accorde autant d'avantages. Et ils comprennent déjà, au niveau du Parlement, de l'Assemblée, de la Chambre basse, notamment, que, étant donné qu'il y a divergence entre les deux chambres, c'est la Chambre basse, n'est-ce pas, dont le vote sera considéré. Non seulement qu'il y a cette tendance à la politisation qui caractérise l'Assemblée nationale, vous verrez même au niveau du vote concernant la composition de la Commission nationale électorale indépendante, vous verrez aussi que là aussi, c'est comme si on tient encore que ce que l'on a déploré la fois passée puisse encore se reproduire. Il a fallu, n'est-ce pas, que l'on suive la manière dont le Sénat a vu les choses, et c'est là qu'il y a lieu de remettre les choses en accord entre un Sénat qui continue à siéger plus de 5 ans et l'Assemblée nationale qui a encore un nouveau sang. Voilà, c'est là où il faudrait un peu revoir les choses, Alain Irung.
Alain Tchouma, est-ce que vous êtes également d'avis que ces divergences au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale mettent en mal la cohésion nationale comme le soutiennent Médard Mbuyal Mangala et Joël Kadedanga?
Oui, en fait, moi, je me sens un peu demander peut-être aussi faire à croire que la politique de la RDC est une politique qui doit être aussi participative. On ne doit pas prendre la RDC en otage. Que les problèmes pour des intérêts d'argent puissent mettre les gens en conflit entre eux, et c'est comme si c'était une affaire d'un groupe d'individus qui fait partager l'éléphant et que la population est là en train d'avoir ce qui se passe. Par rapport à ce budget, moi j'aimerais peut-être qu'on arrive à un certain moment à conseiller quand même à nos honorables députés et sénateurs d'éviter la boulimie politique. Ce n'est pas bien. Après avoir constaté un peu cette attitude de deux chambres qui discutent pour leurs propres intérêts, parce que la population, je ne vois pas vraiment l'essentiel de ce qu'elle a pris comme considération, comme avantage par rapport à ce qui se passe. C'est moi parce que on a constaté quand même qu'il y a quelque chose qui n'avance pas. Après avoir constaté c'est cette attitude de la chambre basse du Parlement, qui constitue le premier point d'ailleurs de l'ordre du jour qu'on se rappelait à un certain moment, pour discuter des problèmes d'argent, où c'est moi qui vais avoir plus que l'autre, c'est l'autre qui vais avoir plus que moi. Bon, on suppose peut-être que nous sommes dans une chambre où nous discutons de l'argent, et au vu aussi de plus de 70 millions de Congolais qui nous captent par un moment. On se rappelle d'ailleurs que le chef de l'État, je reviens sur l'idée de nos confrères qui viennent de parler aussi de cela, le président de la République qui a renvoyé le budget 2013 voté par le Parlement pour une seconde lecture, envie de dégager d'ailleurs davantage des ressources liées à la défense de la patrie. Je ne sais pas comment est-ce que cela pouvait aussi créer un peu plus de superflu pour organiser peut-être l'armée de la RDC. Bon, ces députés sont anti-chasseurs. Ils vivent dans des beaux hôtels, ils mangent quand ils veulent, ils vont là où ils veulent. Mais il faut voir ces militaires qui combattent sur le champ de bataille. Ils ont besoin aussi de vivre. Et ils le font. Tout ce qu'ils gagnent là-bas, c'est parce que ces militaires sont en train de sécuriser la nation, sont en train de combattre. Et quand le président donne déjà une déclaration, d'ailleurs, ce n'était même pas une question aussi d'en parler, parce que ça fait beaucoup de temps, nous l'avons suivi dans l'adresse du président de la République à la nation, qui a dit qu'il va beaucoup plus se focaliser sur la défense nationale. Et il fallait arriver à un certain moment qu'on donne plus de chances à cette défense pour que les militaires qui sont sur le terrain soient aussi plus motivés. Mais quand sont les députés qui cherchent aussi à avoir plus que tout le monde, ça nous montre encore une fois que les peuples congolais, nos dirigeants n'ont pas encore cet esprit patriotique. Je vois directement, il faut parler peut-être aussi de ce qui a été dit. Après délibération, la commission qui est allée au-delà aussi de la proposition du gouvernement, en dégageant 86 milliards, si j'ai bonne mémoire, a réaffecté la défense nationale. Et pourtant, c'était prévu 55, vous imaginez, à un certain moment. Mais là où le Sénat aussi n'a pas compris, c'est le fait que l'Assemblée nationale s'est octroyée de fonds supplémentaires pour son fonctionnement, en diminuant, c'est assigné au fonctionnement de la Chambre haute. Voilà un peu plus de combat. Selon les provisions initiales, je vais un peu terminer. Selon les provisions initiales, c'était prévu, je crois, à plus de 98 milliards de francs congolais qui étaient affectés à l'Assemblée nationale pour son fonctionnement, contre seulement 38 milliards 600 millions de francs congolais au Sénat. Mais curieusement, on constate encore une fois que ce n'était pas fini. Il fallait qu'on continue. Et jusqu'à un certain moment, l'Assemblée nationale est arrivée à plus de 103 milliards, je crois, de francs congolais. Seulement pour son fonctionnement. Mais le peuple congolais, cette police qui travaille ici, cette armée qui travaille ici, et quel est ce sort de tout cela? Voilà là où la population congolaise se cherche aussi des questions, de savoir est-ce que vraiment ceux qui représentent le peuple congolais au niveau national, est-ce qu'ils sont là pour travailler au nom de cette population? Parce que je crois qu'actuellement il fallait beaucoup plus se focaliser sur la défense nationale, le peuple congolais, les habitants de la ville de Goma et de la province du Nord qui
vivent
en particulier,
et
de temps en temps comprendre ce qui se passe, et il faut là trouver une solution par rapport à la situation.
Merci Alain Tchouma. Vous déplorez également cette situation, Médard Mbouyal-Mangala. En ce qui concerne la CENI, plusieurs observateurs déplorent la politisation de cette institution, de cette loi telle que votée par l'Assemblée nationale, et même plusieurs observateurs pensent que l'Assemblée nationale n'aurait pas tiré les leçons de la première CENI, s'il faut l'appeler ainsi.
Mais justement, cher ami, ça veut dire au niveau de l'Assemblée nationale, on fait semblant sur les dégâts que nous... qu'on a récolté à l'issue de l'organisation des élections du 28 novembre 2011. La plupart des députés, chacun sait de quelle manière il s'est retrouvé là-bas. Alors, sur le départ, on a identifié que sur le plan de l'organisation, il s'est posé des problèmes. Et sur le plan de présence, qu'il fallait renforcer, et là, c'est la bonne manière de renforcer le mécanisme, de renforcer le cadre de l'organisation. C'est en augmentant le nombre de participants, ça participerait à des réponses. Mais comme on a dit, l'Assemblée nationale est fortement politisée, et comme elle aime nous offrir du spectacle, justement on préfère ce spectacle-là pour démontrer des rapports de force. Mais en fait, il n'y a pas de rapport de force entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Il y a plutôt le rapport de force entre l'Assemblée nationale et l'opinion publique. Parce que les députés, le travail qu'ils sont en train de faire, demain ça aura de l'impact et des répercussions sur chacun d'eux. Et comme nous le savons, les députés ont tellement compris que c'est une affaire d'argent, que la plupart d'entre eux ont pris pour assistants leurs propres fils. Et au-delà même des assistants, des suppléants, dans un mécanisme électoral sérieux, la plupart des suppléants, c'est des fils. Lorsque je vais aller au gouvernement, où je vais me retrouver PDG d'une entreprise publique, c'est mon fils qui vient me remplacer, c'est ma fille, c'est la nièce ou le neveu, ou le petit frère ou la petite sœur. Ça joue sur l'image de cette institution. Au-delà du spectacle actuel, ils devront se forcer à améliorer cette image. Or, ils ne veulent pas écouter. Et cette Assemblée nationale risque de se transformer en une caisse de résonance.
Était-ce un mauvais présage, Médard Mbouyal-Mangala, pour les prochaines élections?
Oui, parce que je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un problème de mauvaise posture prise par les institutions de la République. Dites-vous, puisque nous parlons des élections, souvenez-vous qu'à l'époque, à son temps, la CENI a considéré que l'environnement qui a prévalu à l'organisation des élections dans le Massissi ne valait pas de la peine et qu'il n'y avait pas de résultats publiés. mais c'est une institution de la République, la Cour suprême de justice, pour ne pas la citer, qui a obligé la CENI à publier des résultats. Et quels résultats? Et donc, si les institutions de la République ne peuvent pas écouter le son de l'autre, on s'enferme chacun dans son pouvoir, je bénéficie de tel ou tel autre pouvoir, c'est dangereux, parce que finalement, nous risquons de nous fragiliser vis-à-vis des adversaires de la République.
Joël Kadidanga, finalement, on pensait réformer cette CENI, mais peut-on dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge et qu'il faudrait craindre le pire?
C'est là où je me dis que certains députés au Parlement semblent un peu vendre de la mèche au mouvement rebelle. Si vous avez suivi, nous allons peut-être y revenir, je pense. Si vous avez suivi les revendications telles qu'améliorées du M23 aujourd'hui, c'est pratiquement un peu toutes les petites tergiversations ici. C'est comme si on est en train de préparer un repas ici que l'on sert à Kampala au bénéfice du M23 pour toujours lui donner de la matière. Parce que si on pouvait couper de l'herbe sous le pied de tous les détracteurs du régime de Kinshasa, couper de l'herbe sous le pied du M23, ce que l'on aurait dû faire, c'est aller dans le sens de la dépolitisation ou de la politisation de la Commission électorale nationale indépendante. Aller dans la politisation de la CENI voudrait dire qu'on puisse faire en sorte qu'elle n'ait pas une influence très forte, bien qu'on sait que chez nous, même la société civile se laisse des fois politiser, mais au moins, si on peut avoir 26 membres, chacun venant de la province, et au-delà de la majorité de l'opposition. Mais là, on vous dit, la majorité donne déjà 6 membres, l'opposition vous donne 4 membres, la société civile vous donne 3 membres. Et lorsqu'il faut déjà un vote, vous sentez que les politiques vont déjà avoir du poids sur la société civile, et par conséquent, c'est toujours la politisation, et je crois. Étant donné qu'ils savent, Médard l'a dit, qu'ils savent de quelle manière ils ont été tous élus, ils connaissent pour la plupart, ils aimeraient que cette politisation encore continue pour qu'ils soient réélus. Et là, le danger, c'est à quel niveau? C'est lorsqu'il faudrait vendre, n'est-ce pas, de la mèche, lorsqu'il faudra vendre, n'est-ce pas, préparer un repas ici au Congo pour servir aux détracteurs du régime en place, aux détracteurs au M23 qui va encore ajouter, n'est-ce pas, les mêmes mal préparés ici à leurs revendications.
Voilà, puisque vous faites allusion pour parler de Kampala, nous allons directement aborder notre deuxième thème de ce soir. La délégation du gouvernement congolais qualifie de vaste blague les revendications du M23 exprimées lors de la plénière de mercredi dernier. En effet, le mouvement rebelle exige non seulement l'annulation des résultats des élections de novembre 2011, la dissolution du Sénat, des assemblées provinciales et la démission des gouverneurs, mais aussi la mise en place du Conseil national de transition en vue de diriger la période transitoire. Selon le M23, le CNT aura 5 missions principale, à savoir la révision de la Constitution, la formation d'un gouvernement de transition, la mise en place des autres institutions de la République, la restructuration de la CENI et l'organisation des élections générales. Dans sa réplique d'hier, tout en répondant point par point au grief du M23, la délégation du gouvernement congolais estime que le M23 est sorti du cadre inscrit par la CIRGEL, qui ne concerne que l'évaluation de l'accord du 23 mars 2009. Écoutez l'abbé Apollinaire Malumalu, chef du groupe des experts de la délégation gouvernementale qui a tenu une conférence de presse à l'issue de la plénière d'hier. Ses propos sont recueillis par notre confrère Franck Salé de la RTNC.
Il n'est pas question de pouvoir remettre en question l'ordre constitutionnel et institutionnel de la République démocratique du Congo. Et toutes les propositions que vous avez reçues, Conseil national de transition, gouvernement d'union nationale, dissolution des institutions, pour nous, c'est de la vaste blague. Ça n'a rien à voir avec notre dialogue et il n'en sera pas question. Nous sommes là pour savoir pourquoi l'M23 a pris les armes en violation de la Constitution de la République. Et quelles sont les pistes pour mettre fin? Nous ne sommes pas là à un forum qui va discuter de tous les problèmes de la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas aussi pour les nostalgiques à Sad City, à un dialogue intercongolais. Nous ne pouvons pas aussi qu'on renverse les rôles. Celui qui devrait être au banc des accusés se transforme en procureur. Et non, les choses doivent être claires. Le M23 a été reconnu comme une force négative.
Voilà, Alain Tchouma, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la radio Kivu One, émettant depuis Goma au nord Kivu. Finalement, on a l'impression que pour parler de Kampala, les revendications ne sont pas claires, les réponses à y apporter non plus.
Bon, moi, je crois peut-être que les revendications seront claires, parce qu'actuellement, et en ce moment où nous parlons, on discute sur l'accord du 23 mars. Mais moi, j'aimerais un peu demander et répondre, peut-être aussi analyser un peu ce qui se passe à Kampala avec le M23. C'est de savoir quelle est la vraie revendication du M23. Il serait mieux vraiment que ces groupes rebelles disent un peu plus, dans les termes clairs, quelle est la vraie revendication du M23. Parce qu'à chaque seconde, il y a toujours des revendications qui viennent, d'autres qui repassent, d'autres qui sont contradictoires. Alors on se demande, est-ce que vraiment le 1-23 maîtrise d'abord pourquoi ils sont en Kampala? Ça, c'est une première question que moi-même je me pose, et peut-être qu'ils seront, là pour me répondre. Je vois directement les revendications et les recommandations du 1-23. Quand le 1-23 demande l'annulation des résultats des élections du 28 novembre après vérification de la vérité des urnes. Bon, je crois, c'est une façon de dire que le gouvernement et le président de la République et tous les restes soient démissionnaires par rapport à cela. Mais ceux avec qui ils parlent à Kampala, ceux avec qui ils sont en négociation, c'est le même gouvernement ici des élections de novembre de 2011 à novembre passé. Alors, quand vous dialoguez avec les mêmes personnes que vous refusez, je ne crois pas, je ne vois pas vraiment l'aspect rationnel de l'idéologie même des raisonnements du 1-23 dans ces cadres. Et en plus de cela, le 1-23 avait plus de 21 revendications à un certain moment, où tout était mis en cause, même les marchés publics, même les supermarchés qu'ils ont voulu aussi en avoir. Je crois peut-être que nous en aurons aussi d'autres revendications qui viendront. Mais pour moi, ce qui est essentiel, c'est de savoir au clair qu'est-ce que le 1-23 veut. Quand tu demandes la dissolution du Sénat, il refuse même les élections passées en novembre, dissolution du Sénat. Mais alors, je me dis, et qui va prendre alors ces rôles? Qui va jouer le rôle du Sénat tellement s'il y a dissolution? Il demande qu'on crée un conseil national de transition. Mais je crois que le 23 est parti à Kampala pour revendiquer, pour négocier sur les accords du 23 mars. Mais quand on prend directement l'aspect de la République, non. Ils ne sont pas députés nationaux pour parler au nom de toute la République. Nous avons des députés, même si ils sont ce qu'ils sont. Mais en ce moment, ce qui est important, c'est que le 1-23 donne la vraie raison de sa revendication. Sinon, en ce moment, je crois même la communauté internationale qui est en train de suivre ce qui se passe, parce que là, il y a la présence des Unions européennes, des Nations unies, des États-Unis et d'autres pays, et comprendre au moins est-ce qu'il y a du sérieux dans tout ce que le M23 est en train de faire.
Merci.
Mais si aussi le gouvernement n'a pas respecté les accords du 23 mars, parce que nous sommes là beaucoup plus pour juste signer les accords sans pour autant les respecter, il faudra faire que le gouvernement aussi donne aussi des raisons si vraiment il y a des choses qui n'ont pas été respectées.
Merci.
Mais je vois ici, comme ce que se passe comme actualité, je vais finir Alain Runga, avec ce que se passe à Kampala aujourd'hui, et c'est vendredi d'ailleurs, où on commence déjà l'évaluation de l'accord du 23 mars, mais selon les exposé que nous venons d'avoir d'ailleurs du secrétaire exécutif du M23, le gouvernement congolais n'a pas respecté tout cet accord selon eux. François Lushugoza qui a dit cependant que les délégués de Kinshasa ont justifié que tous les points de l'accord de Goma en cours ont été pris en compte et ont été exécutés. On s'est dit alors, nous jouons sur quel coin? C'est le blanc-blanc bonnet ou bonnet-blanc?
Merci Alain Tchouma. Joël Kadedanga, vous êtes éditeur de Impact News, un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. Quelle est la vraie revendication du M23? C'est la question que se posait tout à l'heure Alain Tchouma. On a l'impression de faire des revendications revues et améliorées, et ça rend difficile finalement toutes ces négociations.
Non, c'est difficile. C'est difficile comment? Parce que la revendication des M23, on le sait, c'est le départ du régime de Kinshasa. Par contre, c'est au niveau de notre gouvernement que la position devait être bien claire. Le M23, depuis qu'il a pris les armes, bien qu'au plus, n'est-ce pas, de la révision des accords du 23 mars, a demandé le renversement du régime, du gouvernement. On le sait, depuis qu'il a pris les armes. Mais c'est par contre de notre côté où on ne sent pas clairement quelle est la position de notre gouvernement. Tantôt, c'est une vaste blague. Ça, c'est l'abbé Malumalu. Tantôt, par rapport aux porte-parole du gouvernement, c'est une bande de criminels. Et le ministre congolais des PTT, en Belgique, il dit non, c'est un groupe de Congolais, le gouvernement est allé entendre les Congolais qui ont rejoint le M23. Mais là alors, mais comment est-ce que si c'est une force négative, la force négative FDLR, vous n'avez pas vu les FDLR autour d'une même table avec Kagame. Vous n'avez pas vu le ADF Nalu avec Museveni en train de négocier. Vous n'avez pas vu Kony en train de négocier avec Yoweri Museveni. Donc il faudrait que le gouvernement ait une position et la position qui sécurise tout le monde. Est-ce que c'est une bande de criminels? Ok, on négocie pas avec une bande de criminels. On doit émettre les mandats d'arrêt international et les arrêter partout où ils peuvent être. C'est en tout cas une force négative. On négocie pas avec eux, on renforce l'armée pour les bouter dehors. Est-ce que c'est alors les Congolais qui ont rejoint le M23 avec qui il faut négocier? Je pense qu'au niveau du gouvernement, on devrait avoir un même langage. Et non seulement qu'il y a une ambiguïté du langage dans ceux qui représentent les gouvernements congolais à ces dialogues, même les membres de l'opposition. Vous sentez aussi qu'il n'y a pas une position. Et la position au niveau des membres de l'opposition comme de la société civile. Donc vous sentez qu'il y a une connivence au niveau de la majorité présidentielle, au niveau de l'opposition, au niveau de la société civile, qui fait en sorte que les revendications de la société civile, de l'opposition, sont transmises au M23 qui a l'arme à la main, comme on essaie un peu de faire quoi, de faire accepter une mauvaise apologie que le gouvernement congolais ne peut entendre que celui qui a la Kalachnikov, et ce sont eux qui récupèrent les revendications, n'est-ce pas, de l'opposition et de la société civile. Je crois, à mon sens, et au niveau de notre rédaction, qu'il y a lieu que les gouvernements puissent lever une seule option. Vous avez vu au Mali, je vais terminer par là, vous avez vu au Mali, on a refusé de négocier avec les djihadistes, mais on renforce. Si vous sentez que vous n'avez pas la force d'intervenir, mais vous demandez l'intervention extérieure.
Merci.
De manière à bouter dehors ce que vous pensez qu'il ne faut pas négocier avec eux. Entre-temps, vous négociez avec eux, entre-temps, vous les insultez. Mais c'est dire une chose à son contraire.
Mesdames Mbouyal Mangala, vous êtes journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Il n'y a pas de position claire de la part du gouvernement, pas de revendication claire de la part du M23, ni de la société civile, ni de l'opposition. Finalement, quel est votre point de vue? En comparant la situation en Centrafrique, on a l'impression que là, c'est allé trop vite.
Oui, c'est allé trop vite. Dites-vous, dès le début de mon intervention, j'ai souligné que les institutions de la République nous présentaient une posture à la fois ambiguë et dangereuse. Aujourd'hui, je vais m'expliquer sur la posture dangereuse. La posture est dangereuse parce qu'avant d'aller à Kampala, il y a eu la réunion d'Addis Abeba, il y a eu une réunion aux Nations Unies à New York. Addis Abeba a identifié le M23, la rébellion pro-rwandaise, comme étant une force négative avec laquelle on ne devait pas négocier. Mais les institutions de la République ont créé les conditions à se retrouver à tout prix autour d'une table avec le M23. D'où les multiples réunions à Kampala, et Kampala qui a permis de donner du souffle et de l'énergie à la limite des béquilles au M23. Ça a été un danger pour la République, parce que dès le début, on ne sait pas qu'est-ce qu'il nous fallait pour pouvoir résister face à une rébellion. Deuxième élément de mon intervention, en tant que sur la posture dangereuse que prennent nos institutions de la République, on a préféré aller négocier à Kampala, dès lors que nous savons très bien que le gouvernement ougandais est bien impliqué dans la rébellion, appuie aussi militairement et même matériellement la même rébellion. Souvenez-vous, la dernière intervention lors d'une conférence de presse du facilitateur, qui lui est tenté de régner aux Nations Unies le déploiement des drones. Quel est l'intérêt du Rwanda? Quel est l'intérêt de l'Ouganda? Ces deux pays aimeraient avoir la République démocratique à genoux. Et le gouvernement qui l'accompagne, les institutions de la République qui l'accompagnent, n'ont pas le temps de dire qu'est-ce qui est en train de se passer. On est tenté d'accompagner. En fait, au bout des comptes, en allant à Kampala, on a ignoré la déclaration d'Addis Abeba. En allant à Kampala, on a ignoré la déclaration de New York, qui présente le M23 comme la force négative. Et donc, les institutions de la République veulent à tout prix béatifier le M23, dédouaner Kampala, dédouaner Kigali. Oh, c'est justement à Kigali qui est le siège de tous les malfaiteurs congolais ou prétendus comme tels. Il suffit d'avoir posé des actions sur la République démocratique du Congo. Et lorsqu'on retourne à Kigali, on va trouver les tapis rouges, on va trouver des villas. Sauf qu'on n'est pas au premier cas. Il y a eu le colonel de Jules Moutéboussi, il y a eu le cas du colonel Kassongo, il y a eu le cas de Kouna Batoare, il y a eu le cas de Tangana. Parce que vis-à-vis de la communauté internationale, souvenez-vous, lorsque la communauté internationale nous a demandé de capturer Tangana et l'amener à la CPI, on a traîné les pieds. Lorsqu'on sort les paroles
pour bloquer Dagada, il avait déjà trouvé refuge à Kigali. C'est justement cette capitale qui est devenue, qu'on a envoyée pour représenter l'Afrique au nom du Conseil de sécurité, cela pendant 2 ans. Et donc, pendant 2 ans, on sera toujours en difficulté.
Merci. La réalisation me signale qu'il nous reste moins de 5 minutes pour terminer cette émission. Donc, je demanderai des réponses très courtes pour nous permettre d'atterrir en douceur. Alain Tchouma, cette multiplication de revendications du M23 serait-elle une stratégie pour enliser finalement ces négociations et ne pas avancer?
Moi, je crois qu'il y a une vérité qui est cachée derrière ce qui se passe à Kampala. L'M23 qui change au jour le jour des revendications, il a peut-être raison de nous dire pourquoi il le fait actuellement. Est-ce que c'est une façon d'éterniser les dialogues parce qu'il y a un bon per diem là-bas pour que tout le monde se tape un peu trop de pognon? Mais aussi, je vois qu'il s'est fait une expression aussi volontaire de la part de la communauté internationale. Parce que ce qui se passe en Centrafrique, où les rebelles étaient déjà plus de 60% de la prise du territoire centrafricain. Mais aujourd'hui, le problème a trouvé solution. Aujourd'hui, on a même nommé le premier ministre ici même de l'opposition et où la CELICA a dit être aussi d'accord avec ce monsieur. Et directement, la solution a été trouvée. Il n'y avait pas 2 jours de négociation pour que cela arrive. Qu'est-ce qui est différent par rapport à ce qui se passe au Congo, même si les cours ne sont pas les mêmes? Est-ce que nous avons les sangs verts qui les sangs trafiqués qui ont les sangs rouges? Nous savons que nous avons tous les sangs rouges et le peuple congolais est en train de subir cette complicité de la communauté internationale dans tout ce qui se passe. Parce qu'il ne reste pas, on ne peut pas avoir même 2 minutes pour dire au M23 de quitter et de disparaître directement dans tout ce qu'ils sont en train de faire comme manœuvre, comme violation ici. Mais comme le gouvernement, comme la communauté internationale revendique et toujours là pour soutenir, je trouve qu'il y a une certaine complicité dans ces cas. Et c'est ce que le peuple congolais doit aussi prendre en considération et de savoir pourquoi ces dialogues ne sont pas faits. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au vu aussi de la communauté internationale qui ne fait que dénoncer, prendre les choses au sérieux. Il faut que le peuple congolais comprenne au moins ce qui se passe actuellement à Kampala.
Merci Alain Tchouma. Joël Kadedanga, finalement, quelle série la voie de sortie?
La voie de sortie serait la position bien précise, que l'on quitte ce que Médard appelle la posture ambiguë, que le gouvernement donne une position exacte. Qui est Rwanda, qui est Ouganda dans la guerre qui se vit dans l'est de la République démocratique du Congo? Que le gouvernement puisse les définir des deux, que le gouvernement puisse définir exactement qui est M23. Est-il un mouvement rebelle? Est-il une force négative? Si nous avons la réponse au rôle que chacun, que le Rwanda joue dans cette guerre, au rôle que joue l'Ouganda, au rôle que joue le M23, je crois qu'il y aura moyen de ressortir une position exacte, une position qui nous permettrait que la communauté internationale nous trouve comme des hommes sérieux. Mais sinon, à l'heure actuelle, c'est de la vaste blague, j'emprunte les mots à l'abbé Malumalu, c'est de la vaste blague que l'on trouve dans le chef de notre gouvernement où on n'a pas une position exacte, un rôle exact que l'on donne au Rwanda, à l'Ouganda et au M23.
Nous terminons par vous, Médard Mbuyal Mangala. Quelle serait la voie de sortie d'après vous?
Bon, avant d'identifier la voie de sortie, il faut voir l'adversaire qui est en face de soi-même. Alors, l'adversaire, c'est le gouvernement rwandais. L'adversaire, c'est le gouvernement ougandais. Ça doit être établi. C'est des éléments clairs. Le rapport des Nations Unies l'atteste. Tous les discours prononcés par le M23, c'est de la manipulation de l'opinion publique nationale congolaise. Parce que souvenez-vous, ce que le RCD Goma n'a pas pu donner à l'opposition, notamment à Étienne Tshisekedi, après le dialogue de San City, le M23 ne le fera pas. Parce que le M23 est une sorte de continuité du RCD Goma, du CNDP, et il y a une même logique. Deuxième élément, à Kigali, les élections pluralistes démocratiques, c'est pas la valeur la mieux partagée. Il en est de même à Kampala. Et donc, lorsque le M23 demande la dissolution des institutions, parce que justement, on est gêné, on préfère la République démocratique du Congo fragilisée, sans institutions stables, alors on préfère dire, allons, on dissout, mais on dissout au nom de quel principe? Et donc, on veut dissoudre ces institutions pour permettre à Kigali et à Kampala de continuer à manipuler l'opinion publique nationale congolaise et des acteurs politiques qui aimeraient jouer le jeu.
Merci, chers confrères, d'avoir participé à cette tribune de la presse. Samuel Kachak en a assuré la réalisation sous la supervision de Julien Nyamouini. Jean-Noël Mokondo était à la mise en onde. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, de nous avoir suivis. Présentation et coordination, Alain Rongmouchige. Bon week-end à tous.